Éminence, Monsieur le Cardinal, cher Monseigneur, ou comme on dit souvent en France, mon cher père, ou comme on dit encore couramment au Canada anglais et aux États-Unis d'Amérique, Your Grace, quand on s'adresse à un archevêque, et Dear Bishop, quand on s'adresse à un évêque, cordial et respectueux bonjour. Que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit-Saint, feux d'amour et de gloire, soient toujours avec vous. Je ne sais si c'est réciproque ou si ce sera mutuel encore à la fin de l'audition de ces deux cassettes, mais c'est pour moi aujourd'hui un honneur et un bonheur de pouvoir prendre contact à nouveau, directement, avec chacun d'entre vous, dans une conversation enregistrée à votre intention, la première depuis les trois précédentes interpellations fraternelles des années 1984 et 85. Dans ces trois premières interpellations, les thèmes majeurs abordés avaient été, dans l'ordre, la différence entre les deux styles d'Église, l'actuel qui va bientôt disparaître, et le nouveau qui prend place. Il en a d'ailleurs été question également dans la troisième interpellation. Il a été question de Jean-Paul II, de l'appel à la sainteté et du discernement dit spirituel dans la deuxième interpellation. Enfin, de vos déclarations épiscopales et de la question de la pastorale et des pasteurs dans la troisième interpellation. La présente interpellation, cette quatrième, et vous aurez vite l'occasion de vous en rendre compte, est d'emblée marquée au coin d'une importance et d'une urgence toute particulière. Si vous ne l'avez encore fait, je vous recommande instamment d'écouter d'abord les deux cassettes sur le grand Big Bang spirituel en cours avant de passer à celle-ci. Car l'écoute de la présente interpellation aux évêques ne peut que se situer dans son nouveau et vrai contexte à la fois historique et ecclésiastique. Je m'adresse bien entendu en priorité aux évêques du Canada et du Québec, mais à travers eux à tous les évêques dans notre Église. D'ailleurs, pour la deuxième fois, j'enverrai en hommage fraternel, donc gratis pro Deo, à environ une centaine d'archevêques et d'évêques à travers le monde, dont les noms nous ont été suggérés, la série des trois enseignements qui forment un même ensemble. L'enseignement sur le Big Bang spirituel, cette quatrième interpellation fraternelle, et un enseignement sur Jean-Paul II et notre nouveau style en Église. Comment le grand incompris d'aujourd'hui et le grand persécuté de demain sera le très grand héros spirituel des temps exceptionnels qui s'en viennent en Église et dans le monde. Éminence, cher Père et Monseigneur, l'enseignement d'aujourd'hui n'a pas pour but, pas plus que les précédents, de vous secouer, de vous sermonner, de vous convertir ou encore moins de vous provoquer. Je ne fais ici qu'accomplir une livraison qui m'est dictée, en mon âme et conscience devant Dieu, comme toute mission prophétique. Je n'en ai vraiment pas le choix. Je dois livrer la marchandise. Donc, écoutez cet enseignement, discernez-le, priez-le et disposez-en à votre guise, selon ses lumières à lui et votre âme et conscience. Comme le titre est en lui-même percutant, afin de ne rien exagérer ou dramatiser, je vais procéder avec beaucoup d'amour, un peu d'humour et sans détour, selon mon slogan habituel, sur un ton fraternel, dans un climat que je veux caractériser surtout par la sérénité, l'espérance, la paix et la liberté complète. Liberté de partage quant à moi et liberté d'accueil ou non quant à vous. Aujourd'hui, cette quatrième interpellation, et vous pouvez consulter le schéma d'exposé qui vous est déjà remis ou qui accompagne cette cassette, l'exposé comprend trois grandes parties. La première concerne les fondations, Pax Vobis et que ton règne vienne. La deuxième traite de vous, archevêque et évêque, en particulier de ce type actuel d'évêque qui est forcément à sa toute dernière édition. Finalement, en troisième partie, l'on parlera de notre Église en transition. Passons donc à la première partie de l'exposé et au chapitre premier qui traite des fondations Pax Vobis et que ton règne vienne. Il est intitulé, section A, au courant en courant, en abrégé, la petite histoire des fondations. En jetant récemment un coup d'œil sur la liste des archevêques et évêques canadiens, je me suis rendu compte que sur un total de 121, 55 étaient arrivés à la conférence depuis mon départ et ma démission en 1974. C'est pratiquement un renouvellement de 50%. J'ai donc pensé alors qu'il serait bon de prendre un moment, et ce sera la première partie de cette interpellation, pour situer davantage les fondations aux yeux de ces nouveaux évêques. Et pour ne pas ennuyer les seniors, à qui j'en ai déjà parlé dans la première interpellation en 84, je recourrai aujourd'hui à quelques diapositives toutes différentes qui n'ont encore jamais été portées à votre connaissance. Allons-y donc allègrement, au pas de course. Voici cinq tableaux assez courts de la petite histoire de nos deux fondations déjà engagées dans leur 18e année d'existence. Et oui, comme le temps passe. Premier tableau, présentation des fondations dès leur début à toute l'assemblée plénière de l'Épiscopat canadien. Comme en fait foi le procès-verbal de la réunion plénière tenue à Ottawa, du lundi 14 au vendredi 18 avril 1975, item numéro 9, et je vous en cite les deux premiers paragraphes. À la veille de quitter son poste de secrétaire général, Mgr Charles Mathieu révèle en primeur aux évêques, dans leurs grandes lignes, la nature, le rôle, l'organisation et les activités projetées de la nouvelle fondation. À l'aide de deux addenda, dont un schéma d'exposé distribué séance tenante, il traite notamment des circonstances qui exigent la mise sur pied d'un tel projet d'Église, des motivations qui ont inspiré son option personnelle, du type d'organisation assez originale déjà entrevue et des caractéristiques particulières de Pax Vobis. Fin de la citation. Cet exposé d'une vingtaine de minutes, graphique en main, a été suivi à l'invitation du bureau de direction de la conférence d'une période de questions et de réponses. Un mémo rédigé à la suite nous rappelle les 6 interventions épiscopales lors de ce partage et mes courtes réponses données séance tenante. Au cas où certains nouveaux évêques se poseraient encore peut-être les mêmes questions, je ne peux résister à la tentation de vous citer 2 au moins de ces 6 interventions épiscopales. Et je vous les cite au texte. Le premier évêque à intervenir était de formation canonique, canoniste, et sa question a été celle-ci. Où se situent au juste les fondations par rapport au code de droit canonique? Dans quel petit casier entre-t-elles? Et ma réponse fut, après échange de vues avec des canonistes, il semble bien qu'elle n'entre dans aucun des petits casiers. Qu'il s'agit d'une formule toute nouvelle post-conciliaire, d'allure prophétique, qui ne pourra se préciser qu'à l'expérience. Peut-être que le futur code de droit canonique saura prévoir une nouvelle catégorie les incluant, ainsi que toutes les autres initiatives du genre. Or, l'on sait que le nouveau code a également fait le même oubli. Sur 1752 articles du Code de droit canonique, il n'est jamais question de prophétisme de prophète. La troisième intervention a été celle-ci. Un évêque a dit « Oui, tout semble beau au point de départ, mais les responsables de vos fondations, comme tant d'autres œuvres depuis Vatican II, vont-ils revenir vers les évêques un bon jour pour chercher une approbation, un patronage, un soutien moral ou de l'aide financière? » Ma réponse a été vive et nette. Non, non, jamais. Nous volerons de nos propres ailes, avec tout notre zèle. Nous ne vous demandons et ne vous demanderons aucune approbation ou bénédiction spéciale. Nous assumerons nos responsabilités en Église. Le Seigneur pourvoit d'ailleurs à nos besoins. Et je souligne en passant, comme c'est indiqué dans ce procès-verbal, cette réplique suscite beaucoup de joie, aucune dissidence et même des applaudissements spontanés dans la salle. Deuxième tableau. Une image prophétique. En 1976, Isabelle Gauvin, notre première cofondatrice au début, a eu en un genre de vision intérieure, claire et nette, le tableau qu'elle a ensuite dessiné tel quel sous nos yeux. Celui que vous avez d'ailleurs présentement entre les mains, à la page 8 du petit schéma d'exposé, donc au verso, où l'on peut voir trois missiles, 1, 2 et 3, lancés par Pax Vobis, avec comme titre en haut à gauche, Mission 1976-2000. Je dois vous confesser humblement que sous la pression et la curiosité des gens, au cours des trois premières années, nous avons tenté, je dis bien tenté, mais en vain, d'interpréter et d'appliquer un sens à chacun de ces missiles. Très tôt, nos élucubrations purement humaines ont dû être mises de côté. Et ce n'est qu'en 1984, donc 8 ans plus tard, au début de la vie publique des fondations, que le Seigneur, nous renvoyant à cette image prophétique non encore décodée, nous a précisé que l'heure était maintenant venue du lancement de la première fusée, en 84-85, et ce fut la proclamation de l'existence et de l'importance d'un nouveau style de en Église. Puis, en 1990, ce fut le deuxième missile, sous la forme de l'interpellation à l'Église intitulée « Essor ou déclin de notre Église ». Et nous attendons encore ces directives concernant le troisième missile. Troisième tableau. Un homme averti en vaut deux. Face aux difficultés et à l'opposition éventuelle que je devais rencontrer, car vous le savez, toute mission prophétique spirituelle a toujours inévitablement son chemin de la croix, l'Esprit du Seigneur a tenu à me prévenir et à me bien préparer, ce qui fut fait par deux avertissements précis. En 1980 d'abord, au cours d'un temps prolongé d'adoration, une motion intérieure très forte m'a invité à ajouter dorénavant, dans toute récitation privée du Notre Père, un petit bout de phrase. Après le « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », d'ajouter « et à ceux qui vont nous offenser ». Donc, 7 ans avant la tempête, j'étais poussé à pardonner généreusement par anticipation à ceux et celles qui allaient éventuellement m'attaquer ou tenter de me persécuter. J'ai donc entreposé d'avance, il va sans dire, des pardons et des pardons qui encore aujourd'hui s'accumulent et surpassent de beaucoup le nombre d'offenses à pardonner. En 1984, ensuite, au moment de lancer la brochure et la mission « Église évangélise-toi toi-même encore davantage », j'ai reçu une prophétie choc, me précisant clairement que l'opposition marquée viendrait éventuellement de 2 groupes en particulier et de mon pays. Le premier groupe, de certains chefs d'Église. Le deuxième groupe, de certains dirigeants du mouvement charismatique, entre autres québécois. La prophétie précisait clairement que face à cette mission prophétique, pastorale et communautaire des fondations, ils seraient, ces 2 groupes, les premiers à s'opposer et à attaquer, les avant-derniers à comprendre et les tout derniers à se rallier. À ma légitime question posée au Seigneur, comment expliquer tout cela, la réponse fut celle-ci. Les 2 groupes agiront inconsciemment pour la même raison. Ce message d'interpellation au renouveau en Église va être désécurisant et menaçant pour eux. Ils auront peur de perdre leur emprise et prestige en se remettant sérieusement en cause. Et, comme on le sait, cette prophétie choc a été confirmée haut la main par les événements. Mais l'Esprit du Seigneur avait eu la délicatesse d'ajouter dans cette prophétie que je serais protégé, aidé et guidé. Et cela aussi s'est bel et bien confirmé. Et je cite quelques extraits. Il me rappelait gentiment que le disciple n'est pas au-dessus du maître. « Ne crains pas, ne crains pas. L'Immaculée Mère veille à tout. Proclame à temps et à contre-temps. Va, je suis avec toi. » Un homme averti en vaut 2, dit-on, mais averti par lui, c'est encore bien davantage. 4e tableau. La synthèse de la mémorable réponse du Seigneur à mon audacieuse question. Vous retrouverez dans le dépliant d'accompagnement à la page 6 la question que j'ai posée directement au Seigneur en 1975. La réponse du Seigneur à cette question est regroupée sous une image qui nous a été proposée en temps et lieu, elle aussi, pour mieux nous aider à évoquer le tout. Un bon moyen mnémotechnique à la fois, et on l'appelle la clé des champs missionnaires nouveaux. Et dans cette image, chaque dent de la clé, l'anneau de la clé, évoque pour nous l'un ou l'autre des 12 thèmes enseignés. Tout est regroupé dans ce qui porte le numéro du document 423 et que vous pouvez obtenir sur demande. 5e et dernier tableau. Rayonnement international au-delà de toute prévision et espérance. Mais Seigneur, sans aucun effort de notre part, son œuvre à lui, œuvre du Seigneur, est rendue un peu partout dans le monde, comme nous le découvrons de plus en plus jour après jour. À notre modeste connaissance, il est déjà au moins dans 34 pays, et sur tous les continents. Les enseignements et 20 nouveaux du Seigneur sont traduits spontanément déjà en 8 ou 10 langues et reproduit en quantité industrielle. On voit donc là une confirmation du style de nouveau en Église, où lui nous demande de petits efforts auxquels il donne lui-même les plus grands résultats. Passons à la section B de ce même chapitre, la toute prochaine étape des fondations. Ce que sont les eaux territoriales. Au début, après avoir dit oui à ma lettre de nomination de 1984, j'ai prié le Seigneur de m'envoyer environ une douzaine de personnes de son choix vers les fondations, personnes avec qui je pourrais prier, partager mon et notre vécu dans la foi, donc une communauté non résidentielle, mais éminemment communautaire, climatisée à 100% par les trois indispensables chrétiens, la charité, la vérité, la liberté, don de Dieu à ses enfants, et source intérissable, lorsque les trois y sont à demeure, de joie et de paix. Ma prière entendue a été exaucée dès les semaines suivantes. Puis, peu à peu, depuis lors, la douzaine initiale a passé à 13, puis 14, 15, 16 et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les envoyer par lui vers les fondations, sans aucun recrutement de notre part, sont déjà 350 dans ce qu'on a convenu d'appeler depuis 1985 les eaux territoriales des fondations. C'est-à-dire un lieu de rencontre périodique où, passant de la théorie à la pratique, chacun, chacune peut apprendre, expérimenter, goûter et discerner à souhait, sans pression ni tension aucune, ce qu'est le style de nouveau en Église. Aux fondations, personne n'est membre et personne n'est permanent. Nous y sommes tous en transit. Parmi ces 350 collaborateurs et collaboratrices, canadiens et européens, on a un échantillonnage parfait de toute l'Église. Des personnes d'absolument tous les âges, de 10 ans à 90 ans, de tous les états de vie, de travail, d'instruction, d'érudition, de métier, de profession, d'expérience de vie, de type de personnalité, de cheminement spirituel les plus diversifiés, de conditions de santé, de moyens financiers, de styles de vie et d'activités les plus variés. Et tous, mais tous, sont heureux de se retrouver et de vivre en Église, là où la charité, la vérité, la liberté chrétienne se retrouvent au grand maximum chez tous et tout à la fois. Puis-je préciser, en passant, cher Monseigneur, Éminence, qu'avec ces 350 frères et sœurs, parmi lesquels on retrouve un très grand nombre de prêtres, de religieux, de religieuses d'au moins 18 communautés religieuses différentes, on a un très, très riche et puissant réservoir de forces vives, hautement bien préparé au style de nouveau qui s'en vient au grand galop en Église, et où tout évêque vraiment d'avant-garde spirituellement pourrait ou pourra venir puiser, s'il voulait un jour, aider et accélérer l'éventuel recyclage des siens au passage d'un style à l'autre, de l'actuel au nouveau. Notre expérience s'avère une première mondiale en Église. On a en effet respecté à 100% cette loi de la nature qui prévoit qu'un fruit mûr doit se détacher de l'arbre, que l'enfant doit quitter le sein de sa mère. Également, qu'un organisme spirituel et d'Église doit lui aussi inciter vraiment les siens, après un certain temps, à aller chercher et trouver ailleurs. Une liberté exceptionnelle a été et est encore vécue aux fondations, et soit dit sans prétention ni vantardise, croyez-moi, comme on n'en trouve pas ailleurs dans aucun organisme, mouvement, groupement en Église, même post-conciliaire ou dit de renouveau spirituel, alors qu'on devrait normalement en trouver partout en Église. Les uns après les autres n'en reviennent pas. Ils n'ont jamais trouvé cela ailleurs en Église. Mais c'est la caractéristique du style 2 qui s'en vient d'ailleurs veut pas remplacer le style 1 actuel, blessé à mort et qui saigne abondamment d'une hémorragie incontrôlable et fatale. Dans ces eaux territoriales, certains y naviguent à l'aviron, d'autres à la rame, au moteur, à la voile, peu importe. Très, très grande liberté de venue, de séjour et de départ, et même de retour et de redépart, sans pression ni le moindre harcèlement pour y demeurer ou revenir, avec une entière liberté d'exprimer à sa manière, à son heure, à sa guise, ses vues, ses options, ses questions, ses réactions à tout ce qui se pense, se dit, se vit ou ne se vit pas en Église. Et nombreux sont ceux et celles qui ont voulu et pu profiter de cette très grande liberté spirituelle d'enfants de Dieu pour faire leurs premières armes au style 2, voire même leurs brouillons, leurs erreurs, leurs faux pas sans se faire tasser ou casser, en tirer les bonnes leçons et les meilleurs enseignements. Tout cela grâce au fait qu'en tant que premier de cordée, nous leur avons fait la plus grande des confiances et avons fait en sorte que le climat en soit toujours un de charité, de vérité et de liberté par et pour tous. Des centaines de frères et sœurs, mes seigneurs, pourraient et pourront donc vous en témoigner. C'est dans cet esprit de liberté du Seigneur et pour démontrer déjà en Église qui se renouvelle que c'est vraiment son vouloir divin et que c'est possible et souhaitable en Église que les fidèles soient amenés et encouragés même à voler de leurs propres ailes et de mieux en mieux de leurs ailes, nous fermerons ces eaux territoriales au Canada en octobre prochain et en Europe d'ici l'année prochaine. Poussant donc ainsi tous ces 350 frères et sœurs hors de ce nid possible, les aidant à se remettre vraiment entre ses mains à lui, en direct et à fond. En taquinant, puis-je vous demander, Éminence, Monseigneur, de résister aux rumeurs faciles qui vont alors se mettre à fuser de toutes parts. Car, vous le savez, nos milieux ecclésiastiques et religieux ne manquent pas d'imagination potinière. On va dire qu'aux fondations, on a reçu un coup de crosse, on a reçu l'ordre de fermer, que tout s'écroule, que c'est une faillite, un échec, que Charles Mathieu est en grande dépression ou se meurt même, qu'il pleure jour et nuit, etc. Dites-leur donc, de notre part, que vous êtes au courant, en courant, et que les fondations se portent, on ne peut mieux, Madame la Marquise, que Monseigneur Mathieu est comblé et heureux comme jamais dans son ministère pastoral et entend bien, si Dieu le veut, mourir en bonne santé. Quant au troisième missile, c'est vraiment dans le calme, le recul, la prière et le jeûne, l'écoute, l'accueil et le discernement spirituel charismatique que nous nous attendons d'en découvrir dans l'Esprit du Seigneur la nature et la portée précise éventuelle. Nous notons, en regardant le schéma prophétique, que le troisième missile est plus imposant que les deux premiers. Vous pouvez le constater vous-même. Mais comme ce fut le cas pour les deux premiers missiles, la mission de 84 et celle de 90-92, nous attendons à son heure et à sa manière et à son rythme qui nous indique tout et nous demeurons sur le plus complet stand-by. Passons, si vous le voulez, au chapitre 2, où je vous dirai quelques un partage sur votre humble serviteur. Dans la section A, je parlerai d'un clocher à trois cloches, c'est-à-dire trois missions personnelles bien distinctes et complémentaires qui se sont précisées avec le temps. Dès le point de départ, au lendemain de ma lettre de nomination de 1984, la plus belle que j'ai reçue au cours de ma vie de consacrée au Seigneur, j'ai pu distinguer que ma mission en cours en Église avait dorénavant trois dimensions. Trois dimensions bien distinctes, à ne pas confondre, mais par ailleurs tout à fait complémentaires. Une mission nettement prophétique, d'abord, qui consiste à proclamer tout haut, quand, comme, où et tant qu'il le veut, l'Esprit du Seigneur, ce que lui décide d'écrire dans mon cœur. Mission que j'accueille et discerne assidûment avec son aide dans la prière, le jeûne et le silence auprès de Jésus au Saint-Sacrement. Ensuite, une mission nettement d'enseignement. Elle consiste à demeurer à son écoute, je dirais 25 heures sur 24, afin d'entendre, d'accueillir et de noter ce qu'il veut bien enseigner à son peuple d'aujourd'hui pour l'Église de demain. Ces enseignements que j'appelle les vins nouveaux du Seigneur me viennent sous motion spirituelle intérieure avec une clarté, une puissance et une abondance qui ne cessent de m'impressionner moi-même jour après jour. Enfin, une mission dite d'interpellation fraternelle. Règle générale, à quelques exceptions près, l'Esprit du Seigneur m'envoie surtout interpeller ce qu'il appelle ses privilégiés, à savoir ceux et celles qui lui sont spécialement consacrés, à lui le Seigneur, dans les liens d'une ordination ou d'une profession religieuse. Le Seigneur désire, en retour de leur engagement, leur donner davantage, mais à la condition, bien entendu, qu'il et qu'elle l'accueillent et lui répondent vraiment. Donc, trois missions distinctes, de prophète, d'enseignant, et d'interpellateurs, ou encore, trois aspects complémentaires d'une même mission tridimensionnelle. Comme vous le voyez, au cas où vous seriez porté à vous demander ce que je fais entre les repas dans ma vie, il n'y a pas de chômage dans la ligne. Et aucune de ces missions n'est facile. Elles ont toutes leur mystère glorieux, joyeux et douloureux. Bien entendu, ces trois missions ne sont pas compartimentées, hermétiques l'une par rapport à l'autre. Au contraire, il arrive souvent qu'elles se donnent la main, s'entraident et s'entrelacent même. En effet, vous l'avez sans doute constaté, bien des enseignements sont à la fois prophétiques et interpellants, et bien des interpellations comme celle-ci, par exemple, soit à des individus ou à des groupes, ou à l'Église, comprennent des enseignements en même temps. Tout cela ne se tranche pas au couteau, ce sont les trois cloches d'un même carillon. Même si tout cela va sans dire, je tiens à le dire et le redire encore une fois. Pour moi, comme pour vous, les prophéties, les enseignements et les interpellations qu'en conscience je proclame, primo, sont et demeurent à 100% des révélations privées, que personne n'est tenu de croire, auxquelles il ou elle est à 100% libre d'adhérer, de suivre ou non. Secundo, ce ne sont donc pas des déclarations officielles de l'Église, nullement infaillibles ou ex cathedra. Elles sont mises en circulation avec 100% de gratuité de ma part à mes risques et dépens, vous laissant à 100% votre liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Tertio, à chacun et chacune donc, sa propre responsabilité devant Dieu. La mienne, c'est d'obéir lorsqu'il me commande en conscience de livrer le tout, car j'aurai à lui rendre mes propres comptes à ce propos. La vôtre, accueillir ou non cette livraison spirituelle, car vous aurez à lui rendre compte de votre propre discernement. Donc, trois cloches d'un même clocher, trois missions bien distinctes et complémentaires. J'aurais le goût de dire en boutade que certains de mes confrères peuvent trouver que cela cloche un peu trop ou trop fort, mais je tiens à le dire, je n'ai aucun contrôle sur la fréquence, la nature et l'ampleur de ce carillon. Je ne suis qu'un transmetteur de son. Son. Son avec un grand S majuscule, son avec un petit S, à lui. Mon rôle ne consiste qu'à vibrer tout à ce qu'il veut nous faire entendre, où, quand, comme et tant qu'il le juge à propos. Et passons à la section B de ce deuxième chapitre, intitulée « La mission d'enseignement proprement dit, les 20 nouveaux du Seigneur, leur nature, comment ils me sont livrés, leur fermentation et vérification, pour qui et pour quand nous sont-ils donnés. » Il y a deux types de vins nouveaux du Seigneur, et nous en recevons des deux genres. Il y a le vin que le Seigneur suscite et celui que le Seigneur ressuscite. Et je m'explique. Le vin nouveau que le Seigneur suscite, c'est un vin habituellement inconnu jusqu'ici, donné pour nos besoins actuels ou futurs en l'Église. Beaucoup d'enseignements reçus sont pour l'Église du style de nouveau. Et si, par hasard, ce sont des enseignements sur des thèmes déjà connus, le Seigneur revient à la charge pour soit les expliciter, les expliquer davantage, les compléter ou les enrichir. Quant au deuxième type, le vin nouveau que le Seigneur ressuscite. On le sait déjà, le vrai vin de la bonne nouvelle de Jésus a été souvent de plus en plus dilué au cours des temps par plusieurs de ses porte-paroles. À Cana, Jésus leur a dit « Remplissez d'eau ces jarres, ils les remplirent jusqu'au bord. » Or, en l'Église, on le sait d'expérience, bien des proclamateurs de la bonne nouvelle sont devenus, consciemment ou non, volontairement ou pas, des jarres déjà bien remplies d'eau, tant ils ont coupé le bon vin du Seigneur. Le Seigneur n'a donc qu'à procéder à un nouveau Cana, Cana 2, et changer leur eau en vin, le restaurer ou centrifuger le tout au cas où, par chance, il resterait un peu de vin au fond de la jarre. Comment me sont-ils livrés ces vins nouveaux? Je pense l'avoir déjà expliqué à votre demande. Ils me sont livrés à mon adresse et avec son adresse bien typique. Et j'aurais ici le goût d'emprunter les paroles si justes et expressives d'Isaïe 54, quand il dit « Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme le disciple qui se laisse instruire. Ses enseignements me viennent à des heures variées et variables du jour, parfois dès le réveil, pratiquement tous les jours, sur un seul ou plusieurs thèmes différents le même jour, à une cadence qui est différente d'une journée à l'autre, parfois j'ai à écrire 5 ou 6 pages, parfois 10, 20, 30 ou 50. Ces vins nouveaux du Seigneur, vraiment de son grand cru à lui, doivent d'abord être accueillis, dégustés, certifiés, conservés précieusement et discrètement dans sa cave à vin des fondations, et ce pour une période qui varie d'un vin à l'autre. Et ce n'est que lorsque l'Esprit du Seigneur m'en donne le signal très précis, à son heure et à sa manière, qu'il est alors permis de les proclamer et de les distribuer là où et comme il le veut bien. Entre l'accueil initial de ces divers enseignements et le signal autorisant leur mise sur le marché en Église, Il peut s'écouler des mois et même des années, parfois deux, trois, quatre ou cinq ou davantage. En effet, il exige toujours de nous qu'une mise en pratique sérieuse précède la ou sa proclamation et qu'elle ait été suffisante et concluante. Il attend également que les autres de son choix soient vraiment prêtes à recevoir le vin nouveau en question. Déjà plus de 300 vins nouveaux du Seigneur nous ont été livrés depuis 1984. Et déjà, 20% de ces vins sont reproduits dans des enseignements sur une centaine de cassettes, ce qui représente 125 heures d'enseignement. Au cours de notre training à cette nouvelle vocation de livreur de vin nouveau, plusieurs conseils bien discernés dans la prière nous ont été particulièrement précisés par le Seigneur et nous ont impressionnés et pour cause. Et je vous en souligne un en passant. Il nous a précisé ceci. Offrez toujours mon vin nouveau pur, tel quel, sans le diluer. Le malin n'a aucune prise sur mon vin, il en a sur votre eau. Enfin, posons-nous la question, pour qui et pour quand nous sont-ils donnés ces vins nouveaux du Seigneur? L'Esprit du Seigneur rappelle souvent que tous ces enseignements nous sont transmis non pas tant pour l'Église d'aujourd'hui en son style actuel, mais plutôt pour celle de demain, alors que les cœurs et les esprits renouvelés en auront une faim et une soif très grandes, sauront les entendre et les comprendre avec joie et profit. Il semble donc vouloir constituer un genre de banque en réserve pour l'Église renouvelée spirituellement de demain. Il va sans dire que tout cela m'enlève toute pression ou désir d'accélérer indûment le pas. C'est par pure gratuité et bonté de sa part qu'il m'a permis jusqu'ici de connaître cette multitude de laïcs, de prêtres, de religieux, de religieuses qui par des dizaines de milliers à travers le monde déjà, écoutent avec assiduité, apprécient et partagent fraternellement sur ces enseignements du Seigneur. C'est ce que j'appelle du sucre à la crème, ou comme on dit en Europe, des sucres d'orge. Je n'en demandais pas tant, mais je l'accepte de tout cœur. Pour accueillir et comprendre et digérer facilement ces vins nouveaux du Seigneur, il faut avoir deux qualités. Avoir un cœur et un esprit déjà renouvelés dans et par le Seigneur, être déjà saisi, consciemment ou non, par la grâce du style de nouveau en Église. Et l'on me fait signe que le temps est écoulé, nous allons arrêter ici.